Et dans nos bons plans conseils aujourd'hui, on va s'intéresser à nos enfants. Nous sommes pour cela avec Claire Lecomte. Claire Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez animer deux conférences à Guillestre et à Serres dans les prochains jours sur les rythmes chronobiologiques de l'enfant. Vous étiez venu déjà l'an dernier sur le département des Hautes-Alpes pour aborder ce sujet-là. Vous enseignez du côté de Lille, à l'université de Lille. Pourquoi revenir une nouvelle fois? Une demande vous avait paru nécessaire de la part du public pour mieux connaître les rythmes chronobiologiques de nos enfants?
Ben écoutez, apparemment, oui, c'est le cas. C'est peut-être approfondir, mais aussi peut-être pour des personnes qui n'aient pas pu y assister et qui aimeraient aujourd'hui participer à une soirée comme celle-là. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on connaît vraiment très, très mal les rythmes biologiques, pas seulement des enfants, de tout un chacun. Et que finalement, on fait par exemple des réformes qui normalement s'appuient sur un mieux-être des enfants par rapport à leur rythme biologique, mais on oublie d'informer tous ceux qui accompagnent l'enfant par rapport à ce que signifie mieux respecter les rythmes biologiques.
Alors parlons-en, qu'est-ce qu'on appelle des rythmes biologiques et plus précisément chronobiologiques ?
Alors, les rythmes chronobiologiques, c'est un... comment dire ? On parle des rythmes biologiques ou bien de la chronobiologie. C'est-à-dire que la chronobiologie, c'est une science qui est née dans les années 50-60, qui a été reconnue par l'Académie des sciences et qui est justement la science qui traite de d'une meilleure connaissance des rythmes biologiques, pas uniquement chez les humains, mais chez tous les êtres vivants. Puisque la chronobiologie s'intéresse également aux rythmes biologiques dans les plantes, chez les végétaux, etc., chez les animaux. Puisque les rythmes biologiques, on le sait aujourd'hui, sont une propriété de la vie. Tout être vivant, quel qu'il soit, possède des rythmes biologiques. Ces rythmes biologiques font partie d'un programme génétique, c'est-à-dire que chacun naît avec un programme génétique qui lui est propre relativement à ses rythmes biologiques. Et en fait, c'est ça qu'on sait trop peu, à savoir que ce programme génétique génère évidemment des différences interindividuelles, y compris entre les enfants, qu'on devrait essayer de respecter le mieux possible, alors que bien souvent, on ne tient compte que de l'âge de l'enfant.
D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut, gérer ça ? On parle de l'école, notamment, par exemple, sur une tranche d'âge, sur, on va dire, des enfants qui sont, par exemple, scolarisés en CM2. Si chaque enfant a son propre rythme biologique, comment est-ce qu'on fait pour, dans l'idéal, hein, pour gérer tout ceci ? Comment est-ce que ce serait possible d'harmoniser tout ça ?
Alors, ça l'est possible à condition qu'on observe bien les enfants. Il y a une différence qui apparaît très tôt, elle apparaît avant un an, qui fait qu'on n'a pas les mêmes besoins de sommeil, tout à chacun. On a des petits dormeurs, des moyens dormeurs et des gros dormeurs, et dès un an, on sait que les enfants le seront. Ce qui veut dire qu'à la maternelle, ils continueront de l'être. Quand on est petit dormeur à cet âge-là, on le reste toute sa vie. Quand on est gros dormeur, on le reste toute sa vie également. Donc ça, c'est la différence principale pour les enfants qui sont scolarisés en élémentaire et en maternelle. Après, à l'adolescence, il y a autre chose qui se passe. Au moment de la puberté, se passe ce que l'on appelle un retard de phase physiologique qui fait que l'ensemble des horloges biologiques des adolescents sont retardées d'au moins une heure. Ce qui nécessiterait, par exemple, vous me demandiez que faire, que les établissements du secondaire commencent plus tard le matin et n'obligent pas les enfants, les adolescents, à prendre un autocar très tôt, qui est beaucoup trop tôt par rapport à leurs propres horloges biologiques. Pour les enfants plus jeunes jusqu'à la puberté, on constate que les enfants sont plutôt des lève-tôt. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui, quand ils ont un rythme veille-sommeil régulier, sont plutôt réveillés tôt le matin et devraient se coucher relativement tôt le soir. En fait, c'est vraiment avec la puberté que des changements profonds vont apparaître, avec un sommeil différent, avec moins de sommeil profond qu'on en a quand on est plus jeune, etc. Mais jusqu'à la puberté, il y a relativement équivalence entre les rythmes des enfants, sauf quand on est petit ou gros dormeur. Mmh. Alors là, la grosse différence vient de ce que, par exemple, en maternelle, on devrait proposer à tous les enfants qui en ont besoin une sieste, et pas seulement la faire obligatoirement à toutes les petites sections, sachant que parmi ces enfants, certains sont des petits dormeurs qui n'ont pas besoin d'une longue sieste. Mais parmi les moyens et les grandes sections, certains sont des gros dormeurs qui, eux, auraient besoin de la sieste. Mais pour les plus grands, et vous me parliez des CM2, il y a quelque chose qui doit leur être proposé également, c'est un vrai temps de repos, un vrai temps de relaxation sur le temps de midi, après le temps de restauration. Bien souvent, on met ces enfants dehors en espérant qu'ils vont se défouler. Finalement, ce sont des enfants qui s'hyperexcitent. Ils ne sont pas défoulés, tout simplement parce qu'à ce moment-là apparaît ce qu'on appelle un creux méridien, qui est une baisse physiologique globale que l'on ressent tous. C'est ce que les adultes appellent le coup de pompe qu'ils ont après manger. qui n'a rien à voir avec la prise de repas, qui est indépendante de ça, qui est vraiment une baisse physiologique liée à notre rythme circadien. Donc c'est vrai également chez les enfants de CM2, mais pour les plus jeunes également, et ils auraient besoin à ce moment-là véritablement d'avoir un temps de pause, un temps de relaxation, un temps de détente réelle.
Alors dans un monde parfait, j'ai envie de vous dire, ça serait super de pouvoir faire attention à chacun des enfants, voire même à chacun des adultes, pour que tout le monde puisse suivre son rythme biologique. J'ai envie de vous dire, si on le connaît, parce que c'est pas forcément évident de le connaître dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et parce que effectivement on a ce rythme-là que l'on prend dès l'enfance. Alors ça c'est dans un monde parfait, mais dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans le rythme scolaire, puisqu'on parle de nos enfants, comment est-ce qu'on peut adapter ça et comment est-ce qu'on peut faire attention à chacun de nos enfants?
Mais je répète, il n'y a pas forcément autant de différence qu'on le dit. La seule qui est vraie pour les enfants jusque la fin du primaire, c'est la différence entre petits et gros dormeurs, qui rejaillit sur le besoin de sieste ou non. C'est vraiment ça qui est vraiment très très différent entre les enfants. Le monde parfait, on peut l'avoir simplement en informant, d'une part, les acteurs et tous les adultes qui accompagnent l'enfant, parce que comme ils ne les connaissent pas, les rythmes biologiques, ils ont tendance à avoir des actes éducatifs qui vont à contresens de ce qu'il faudrait faire, mais simplement parce qu'on ne sait pas. D'accord. Et travailler avec les enfants également. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans les écoles, c'est leur apprendre eux-mêmes à reconnaître leurs propres états physiologiques, ce qu'ils peuvent faire très bien dès la grande section de maternelle, quand on leur apprend et quand on leur montre comment faire pour repérer les états de fatigue, les états où on est attentif, etc.
Et si on ne suit pas ce rythme biologique, est-ce que ça peut être très impactant sur notre santé notamment ?
Ah ben écoutez, on sait que c'est quand même une source importante de fatigue qui peut se chroniciser d'ailleurs. Chez les enfants, ça a un impact très fort sur leur manque d'attention, leur manque de concentration, quand on voudrait qu'ils soient capables d'apprendre, etc. Ça a également un effet chez les adolescents par rapport au fait que bien souvent, ils compensent ce qu'ils ressentent par des excitants. C'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui pourrait leur permettre de rester bien éveillés alors qu'ils n'auraient qu'une envie, c'est de dormir. Donc oui, ça a forcément un effet très impactant, ce que l'on sait très bien, par exemple, chez les adultes, par rapport à ceux qui ont un travail qui les fait changer de rythme régulièrement, tous les 8 jours, par exemple.
Qu'ils travaillent en 3-8. Est-ce que finalement, l'État français a eu raison, dans le changement des rythmes scolaires, de mettre, on va dire, les maths, le français, etc., le matin, et moins l'après-midi, justement, pour que les enfants, puisqu'il est reconnu que les enfants ont plus d'attention le matin que l'après-midi, est-ce que c'est un bon choix ?
Pas du tout, parce que la manière dont ça s'est fait, on a revalorisé les maths et le français comme si on apprenait à lire, écrire et compter qu'en maths et en français, ce qui est complètement faux. Et d'ailleurs, le rapport de l'inspection générale l'a prouvé, puisqu'il a montré qu'on avait mis en difficulté des matières comme le PS, la musique, les arts plastiques, etc. Donc effectivement, on a eu raison de rajouter une matinée, ça c'est quelque chose que je réclamais depuis longtemps, mais là où on a eu tort, c'est de ne pas faire des matinées plus longues, qui permettent justement de ne pas les consacrer qu'aux maths et aux français, mais d'y faire également de la musique, de l'art plastique, de l'EPS, etc. Parce que ces matières-là font appel à la créativité ou à la motricité chez l'enfant. On sait qu'elles ont finalement un coût énergétique qui est plus faible que des matières très abstraites, comme quand on doit se concentrer pour apprendre quelque chose de nouveau en maths. Et de jouer sur les alternances entre ces matières-là, ça maintient beaucoup mieux la disponibilité des enfants, ça développe leur motivation d'ailleurs, et ça leur permet de donner des temps de respiration à un moment où justement ils ont besoin de rester attentifs. Et moi je ne suis pas pour séparer les matières comme s'il y en avait qui étaient vraiment plus fondamentales que les autres, parce que les autres matières, on peut très bien les utiliser justement pour montrer qu'on met en pratique des choses qu'on a apprises en mathématiques et en français. Apprendre à lire, quand on fait une recette de cuisine, si on ne sait pas lire la recette de cuisine, on ne la fera pas. Donc c'est vraiment tout un travail qui est à faire, y compris avec les enseignants, pour qu'on réfléchisse à l'utilisation de toutes les matières dans les apprentissages des enfants qui vont jouer sur leur capacité attentionnelle.
Quelle serait pour vous la journée idéale au niveau horaire, si on peut l'exprimer ainsi, pour les enfants ?
Oui, alors on peut parler d'horaire, mais moi j'aime bien parler de contenu, parce que c'est plus important encore. Donc les horaires, ben pour moi c'est effectivement des matinées plus longues, qui peuvent aller de 3h30 à 3h45, si ce n'est 4h d'ailleurs.
Donc on va dire 8h midi par exemple, voilà, ça pourrait être possible ?
Tout à fait, ça pourrait être tout à fait 8h midi. Ce serait avoir des après-midi de ce fait allégés. forcément, et ce serait surtout éviter d'émietter constamment le temps des enfants. Le pire pour eux, c'est d'avoir des temps où constamment on leur demande de changer, de passer à autre chose. Et quand je vois qu'un peu partout en France, on a appliqué ces rythmes en mettant trois quarts d'heure d'activité périscolaire en fin de journée, là on est dans l'émiettement. Parce que les enfants sortent d'un temps de classe pour aller à autre chose, c'est un changement, c'est une transition, c'est une source de fatigue. Et surtout, ça réduit d'autant le temps qu'on va passer dans l'activité, parce que forcément qu'on ne rentre pas directement de la classe dans l'activité, on a d'autres choses. Donc ça, je suis totalement contre, et c'est pour ça que je militais pour qu'on ait des plages de temps suffisamment longues pour ces activités-là, sur une après-midi équivalente aux autres, qui peuvent être de 2 heures par exemple, et de jouer sur ces alternances-là. Des matinées beaucoup plus longues qui permettent d'y faire toutes les matières, qui permettent également en maternelle de donner du temps aux enfants, parce qu'on bouscule beaucoup les enfants en maternelle, alors que quand ils ont des matinées plus longues, on leur donne le temps d'aller au bout de ce qu'ils ont commencé, ce qui évite de les frustrer par rapport à ce qu'ils sont en train de faire.
Merci beaucoup Claire Lecomte. Voilà, si vous voulez en savoir plus, chronobiologie, rythme biologique de nos enfants, sont des conférences qui seront animées donc par Claire Lecomte, qui sera sur le département des Hautes-Alpes la semaine prochaine. Vous serez donc mardi à Guillestre et mercredi à Serres pour 2 conférences sur le rythme biologique de nos enfants. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui.
Je vous en prie. Au revoir.